On s'est embrassé pour se dire bonjour. Et puis là a surgi de nulle part un homme. Il a tiré violemment les cheveux de ma compagne pour qu'on arrête de s'embrasser. Et puis là, il s'est retourné et il m'a asséné un énorme coup de poing sur le visage.
Vous avez été blessée ?
J'ai eu 4 fractures au visage, un os enfoncé et puis un nerf lésé dans la bouche qui fait qu'aujourd'hui, 3 mois plus tard, j'ai encore des séquelles dans la bouche.
À Paris, un chauffeur VTC qui ne supporte pas que deux hommes s'embrassent à l'arrière de sa voiture. À Lille, des lesbiennes qui rentrent chez elles, sous les coups. À Poitiers, Lyon, Besançon et tant d'autres endroits, des hommes et des femmes menacés, insultés et parfois frappés parce qu'ils sont homosexuels. L'homophobie ne se mesure pas seulement avec des chiffres, mais c'est pourtant vers eux que l'on se tourne en premier lieu. Les actes à caractère homophobe augmentent, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus 15% de plaintes déposées de janvier à novembre dernier par rapport à la même période un an auparavant.
D'abord, je voudrais juste vous poser une question. Qui ça embête de voir deux hommes s'embrasser ? Toi, ça t'embête ?
Ouais, c'est bizarre. Ouais.
C'est bizarre ? Ouais.
Un jour, j'étais à l'hôpital, j'étais avec mon père et j'ai vu deux gays s'embrasser. Ça me dégoûtait.
L'homophobie a donc désormais un ou plutôt des visages, ces figures tuméfiées, ces innombrables photos de victimes d'agressions postées sur les réseaux sociaux, devenues le défouloir préféré des homophobes. Assiste-t-on à une véritable hausse de ces actes homophobes ou à une hausse de leur signalement ? En tout cas, le contexte législatif, politique, contribue à libérer cette parole haineuse, comme en ce moment avec le débat sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, et comme ce fut le cas en 2013 lors du marathon parlementaire sur le mariage pour tous.
Le mariage, c'est sacré, il faut le respecter.
Je constate à chacun de ces moments, quand le débat public est très vif sur les questions de société, une augmentation des signalements d'actes homophobes.
Homophobie, la sale parole libérée, c'est un reportage de Géraldine Allot avec Marcos Darras et Arthur Gerbeau à la prise de son.
France Inter, Interception, le magazine de la rédaction.
Oui Arnaud, c'est Géraldine à l'appareil, on est dans le hall et on n'a pas le deuxième code.
La porte est ouverte.
Ok, c'est à quel étage ?
Quatrième étage.
Bonjour.
Bonjour, Arnaud.
Géraldine. Arnaud, vous avez 27 ans.
Oui.
Vous êtes comédien. En septembre dernier, vous avez publié une photo de votre visage tuméfié sur les réseaux sociaux. Assorti de ce commentaire, je savais que cela devait arriver. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Alors, on était avec mon compagnon au théâtre et lorsqu'on est sorti du théâtre, on a discuté sur le trottoir pendant un petit moment. Et en discutant, à un moment, on s'est fait un câlin. Un groupe de jeunes qui étaient à une vingtaine, trentaine de mètres nous a vus nous faire câlin. Ils ont commencé à nous insulter, puis se sont rapprochés, ils nous ont menacés. Ils nous ont demandé de partir, de quitter le quartier. On a refusé de le quitter parce qu'on attendait quelqu'un et parce que c'était aussi notre quartier, c'est aussi notre quartier. Ils nous ont menacé d'appeler des amis. Manque de peau pour nous, leurs amis sont venus d'eux-mêmes. Et très vite, en fait, on s'est retrouvés encerclés par 6 jeunes, vraisemblablement tous mineurs. Et là, moi, je me suis reçu 2 coups de casque en plein visage, 2 coups de casque de scooter et plusieurs coups de pied dans le dos et jusqu'au niveau des épaules.
Donc, vous avez été roué de coups et blessé.
Oui. Donc, je reçois 2 coups de casque au niveau de l'arcade. Là, j'ai eu 7 points de suture et 4 jours d'ITT. Et puis après, j'ai eu de nombreux coups de pied au niveau du dos. Et ça, on en est à 6 ou 7 séances d'ostéopathe. Et c'est pas encore fini parce que ils y sont allés violemment. Donc il y a beaucoup. Enfin, j'avais le dos complètement bloqué et coincé.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez ?
Au moment où je mets les mains sur l'arcade et où je vois le sang qui dégouline sur mes mains et sur le trottoir et dans la rue, j'ai pas peur, je suis en colère. Tout de suite, je suis en colère. Les spectateurs, la dizaine, douzaine de spectateurs qui étaient encore dans le théâtre et qui ont entendu le bruit sortent pour me mettre à l'abri et pour faire fuir les agresseurs. Et à ce moment-là, moi, je leur dis « appelez la police ». Pourquoi je veux appeler la police ? Parce que c'est une agression homophobe, caractérisé, puisque les premiers mots qu'ils nous ont dit ont été des insultes homophobes.
C'était quoi ?
En fait, ils arrivent vers nous, ils disaient vous êtes embrassés. On dit non, on s'est fait un câlin. Ah, mais vous êtes des PD. Et on leur répond oui, on est homosexuels. Et donc là, c'est un flot d'insultes sur vous devriez avoir honte, c'est dégoûtant, j'espère que vos parents ont honte de vous. Moi, si j'ai des enfants comme ça, je les renie. Voilà, c'est contre nature, tout le flot d'insultes traditionnelles. Et donc voilà, je suis en colère et je veux qu'on appelle la police pour qu'on intervienne tout de suite et porter plainte pour cette agression homophobe.
Comment ça se passe quand vous portez plainte ?
Ça se passe très bien dans un premier temps, c'est-à-dire que la police est à l'écoute. On n'a aucune remarque déplacée de la part des policiers. Par contre, ils nous font bien comprendre qu'un seul suspect arrêté, ça suffit. Puisqu'à l'heure actuelle, ils en ont arrêté un sur les six. Ils nous ont dit, bon, messieurs, un suspect arrêté, c'est déjà pas mal, contentez-vous de ça. Donc, l'accueil à la police est très bon dans un premier temps. Et puis rapidement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas leur priorité, l'homophobie en France, et qu'il y a d'autres trucs plus importants.
Pourquoi avoir mis sur les réseaux sociaux cette phrase avec votre photo, je savais que cela devait arriver. Il y avait un pressentiment chez vous ?
Eh bien, il y avait un pressentiment depuis un moment, parce que ça se rapprochait de nous. C'est-à-dire que j'ai un ami qui a été agressé tout seul, dans une rue à Paris au mois de mai 2018. Puis un autre ami qui a été agressé en province au mois de juillet. Du coup, il y avait comme un sentiment de « ça peut bientôt nous arriver ».
Qu'est-ce qui a changé depuis cette agression ? Est-ce que dans votre comportement, vous avez modifié certaines choses ou pas ?
Eh bien, je suis encore plus vigilant. On a mis du temps, mais ça y est, on a repris nos habitudes. On s'embrasse dans la rue, on se tient la main, on se fait des câlins. Sauf que moi, je double ou je triple les vérifications. Je vérifie vraiment qu'on soit en sécurité avant de montrer le moindre signe d'affection.
Nous sommes dans le centre de Paris, dans le 3e arrondissement, là où se situe le centre d'écoute de SOS Homophobie. C'est ici que convergent tous les appels des victimes d'agressions homophobes. La ligne d'écoute est ouverte 7 jours sur 7, de 18h à 22h. Et pour des questions de sécurité, l'adresse est gardée secrète.
Oui.
Bon allez, amuse-toi
bien.
Ouais, bah, on va dire ça.
Donc là, je mets en place le téléphone, la ligne, pour accueillir la parole des victimes et des témoins.
Donc là, pour situer un peu, on est dans une petite pièce, hein, à peu près 7-8 mètres carrés. Là, sur votre mur, juste en face du téléphone, un vade-mecum. Que faire en fonction de l'agression ? Donc là, je vois réflexe numéro 1, recueillir des témoignages. Réflexe numéro 2, porter plainte. Réflexe numéro 3, avoir une attestation médicale, c'est ça ?
Oui, voilà.
Donc c'est tous les conseils que vous donnez
aux personnes. Que l'on prodigue aux personnes victimes, parce que souvent on nous appelle un peu démunis, choqués. Bien sûr, on va lui conseiller d'aller voir à l'hôpital, une unité médico-sociale, judiciaire, pour justement qu'il y ait un constat de l'intérêt de porter plainte. Tout le monde n'ose pas franchir le pas, par peur des représailles aussi. Et là, il faut dire à ces personnes que oser, c'est aussi elles se positionner en tant que victime, être accueillies dans leurs droits et dans leur statut de victime. SOS, oui, bonsoir. D'accord. Vous ne savez pas comment réagir, d'accord. Alors, si je résume votre appel, vous êtes une personne qui est en formation. Et le formateur, en fait, il tient des propos homophobes à votre égard ou bien c'est juste un comportement, une attitude qui est pas... D'accord. Alors, nous, si vous voulez, à SOS Homophobie, nous avons une commission qui s'appelle Soutien juridique. Il vous est possible donc d'évoquer avec eux cette situation et de voir s'il est possible qu'il y ait un rappel à la loi, un rappel de quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à nous rappeler pour savoir la suite. Hein. Et puis beaucoup de courage pour la suite. Au revoir.
C'est une femme lesbienne, qui est en couple, qui suit actuellement une formation et son formateur a eu des propos désobligeants, homophobes contre elle.
Homophobes contre elle, voilà. Cette personne, non seulement a des propos lésophobes, mais aussi cherche à isoler et à la pointer du doigt en disant voilà, c'est ta faute à toi, t'es capable de dire que tu préférais les filles. Et là, nous, sur SOS, nous avons une commission soutien juridique qui permet comme ça de faire des rappels à la loi, d'envoyer des courriers en disant voilà, nous vous rappelons que tel point sont interdits, et bon, là, ça va être une première possibilité. Excusez-moi, il y a... SOS, oui, bonsoir.
On est toujours dans ce centre d'écoute de SOS Homophobie au centre de Paris. On a avec vous, d'accord, Joël Demier, vous êtes le président de l'association. Ce genre d'appel, de cris de détresse, est-ce que vous considérez qu'ils sont en hausse ?
On a une augmentation des signalements d'actes LGBT-phobes sur notre ligne d'écoute nationale anonyme et gratuite. Une augmentation, selon le dernier rapport annuel d'SOS Homophobie, de 5%. Dont 12% d'augmentation pour les agressions physiques. On a eu des périodes de l'histoire où on a eu beaucoup plus d'augmentation d'actes LGBT-phobes signalés à SOS Homophobie. Je dis bien signalés parce que le rapport annuel, il se base sur les témoignages qu'on reçoit. Mais par exemple, au moment de la période du Pax, en 1999, au moment de la période du mariage pour tous, et aujourd'hui avec la PMA, on constate à chacun de ces moments, quand le débat public est très vif sur les questions de société, une augmentation des signalements d'actes homophobes. Par exemple, en 2013, on a constaté une augmentation de plus 78% d'actes homophobes qui coïncidaient avec tous les débats autour du mariage pour tous. Et là, on assiste aussi cette année à une augmentation des signalements. Donc oui, on peut dire que le débat autour de la PMA et tous les slogans très stigmatisants qu'on peut entendre, je pense aux propos de certains députés, qui comparent les bébés issus de familles homoparentales à des OGM, ont des répercussions, oui, sur l'homophobie, parce que finalement, la parole publique homophobe, elle légitime l'homophobie, et les citoyennes et les citoyens passent à l'acte, puisqu'ils se disent, après tout, vu que les députés se permettent de dire n'importe quoi, ou en tout cas ont des propos stigmatisant les familles homoparentales ou les personnes LGBT, alors finalement, moi, je peux le faire aussi, et les enfants aussi. Et donc, en fait, tout le monde se met à avoir des propos homophobes.
Ce qui frappe ces derniers temps, c'est la violence des paroles homophobes sur les réseaux sociaux. Ça, qu'est-ce que vous, association, vous pouvez faire pour lutter contre ?
Alors, le sujet de la haine sur Internet, c'est un véritable fléau, parce que on ne sait pas aujourd'hui comment faire pour véritablement lutter contre toutes les déferlantes de haine et de propos haineux qu'on voit sur Twitter, sur Facebook.
On le voit notamment contre Bilal Hassani, le candidat français à l'Eurovision.
Tout à fait, Bilal Hassani qui a subi depuis plusieurs semaines une déferlante de propos homophobes et transphobes, parce que Bilal Hassani ne correspond pas aux stéréotypes de genre homme-femme. Sur la question de l'homophobie sur Internet, nous on demande à ce que les réseaux sociaux soient beaucoup plus responsables. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se cachent derrière le fait qu'ils ne sont qu'hébergeurs de contenu et non pas responsables du contenu. Nous, on demande à ce que les réseaux sociaux soient beaucoup plus responsabilisés et qu'ils fassent une véritable modération des messages sur leur plateforme.
Est-ce qu'il faut lever l'anonymat, selon vous, sur les réseaux sociaux ?
Ça, c'est une vraie question. C'est toujours pareil, il y a deux principes en balance. Il y a à la fois la liberté sur Internet, la liberté d'expression qui doit être garantie, et en même temps, elle ne doit pas, cette liberté d'expression, aller jusqu'à des propos irrespectueux, voire d'incitation à la haine homophobe. Et c'est au législateur et c'est au Parlement de se prononcer. Il y a des milliers de jeunes en France aujourd'hui qui sont cyber-harcelés sur le plan de l'homophobie, sur Snapchat aussi, par leurs petits camarades, en groupe, en meute. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et c'est un enjeu de santé publique parce que, comme le rappelait le ministre de l'Éducation nationale, le taux de suicide chez les jeunes LGBT est d'environ 4 fois plus élevé que dans le reste de la population.
Alors justement, au sujet de ces messages homophobes qui se répandent sur les réseaux sociaux, nous allons demander à Frédéric Potier ce qu'il compte faire pour lutter contre. Frédéric Potier est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie.
Alors d'abord, il faut faire le constat que notre droit actuel, il est dépassé. Aujourd'hui, la loi qui régit Internet et les réseaux sociaux en France, elle date de 2004. 2004, Facebook existait à peine, Twitter n'existait pas, Snapchat absolument pas. Et donc on a aujourd'hui un arsenal juridique qui est très loin d'être adapté. Et c'était une des annonces du Premier ministre et du Président de la République que de dire « nous allons réviser notre loi ». Et donc ça va notamment passer par une forme d'inspiration de ce qui se passe en Allemagne. Les Allemands ont adopté une loi qui est applicable depuis l'an dernier, où il y a des délais extrêmement stricts de retrait de contenu, 24 heures ou 48 heures, lorsque c'est signalé, avec à la clé des amendes et des sanctions financières très grandes qui peuvent aller jusqu'à 50 millions d'euros. Et donc c'est ce dialogue-là que nous avons avec les experts allemands, le gouvernement allemand, pour réviser notre loi et la rendre beaucoup plus efficace. Ça passe par une nouvelle loi que nous sommes d'ailleurs en train d'écrire, donc ça je vous le confirme. Simplement, je reviens à la question de l'anonymat. L'anonymat c'est quelque chose de complexe parce que ces plateformes numériques mondiales traitent des pays très différents. Et dans certains de ces pays, évidemment, l'anonymat permet aussi de préserver un certain nombre de droits et de protéger, par exemple, les droits de l'opposition. Il n'y a pas que la question de l'anonymat, il y a surtout la question de comment on bloque des auteurs de manière anonyme de messages de haine. Et aujourd'hui, je pense aux grandes plateformes américaines, par exemple, comme Facebook, il y a eu une prise de conscience. Aujourd'hui, Facebook bloque des comptes, ferme des comptes même pour des groupes qui sont des groupes de haine organisés. Donc là, moi, je me félicite de cette avancée-là. Il y a d'autres plateformes qui sont beaucoup moins dynamiques et beaucoup moins bénévolantes. Donc il faut qu'on puisse aussi adapter nos réactions, je pense en particulier à Twitter, où le niveau de modération et le niveau d'engagement sur ces questions-là n'est pas du tout satisfaisant.
Je m'appelle Bruno Boniface, je suis psychiatre à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et j'exerce comme psychothérapeute également à Paris.
Et vous recevez notamment en consultation des victimes d'agressions homophobes. Est-ce qu'ensuite, après une agression, les victimes ont tendance à plus se cacher ou au contraire à plus s'affirmer ?
J'ai l'impression, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai l'impression que de plus en plus de victimes au moins portent plainte, voire se médiatisent. Ce qui explique peut-être qu'il y a plus d'agressions homophobes rapportées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus d'homophobie, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a moins de honte sur l'agression homophobe et plus donc de démarches vers la police et après vers la justice. C'est une bonne chose. C'est d'abord, c'est signe que beaucoup de choses évoluent. D'abord, dans la perception que la victime a d'elle-même, elle se perçoit comme une victime et seulement comme une victime, exactement comme les femmes violées, qui de plus en plus écartent toute notion de culpabilité ou autre. C'est aussi le signe qu'on a davantage confiance dans la police, dans la justice, pour aller à un commissariat et dire « voilà, j'ai été violé, ou j'ai été agressé, ou j'ai été tabassé parce que je suis homosexuel, parce que j'étais sur un lieu de drague homosexuel, qui sont des choses légales. » Voilà, les personnes que je vois sont confortées sur ce terrain-là.
Donc les choses avancent finalement, malgré tout.
Les choses avancent, je dirais même pas malgré tout, les choses avancent, point. Je sais que beaucoup ne partagent pas cette conviction, mais je reste un optimiste fondamental. Typiquement, le mariage pour tous, le fait que des gens se marient en mairie, que les gens aient droit au rituel républicain avec le maire et son écharpe tricolore, ça change beaucoup de choses.
Et d'ailleurs, la très grande majorité des Français approuve, 5 ans plus tard, le mariage pour tous.
Oui, j'en suis convaincu. Je vois les jeunes générations qui, dans leur immense majorité, n'y pensent même pas. Ils ont des copains homos, ils ont des copains hétéros, ils ont des copines lesbiennes, des copines hétérotes. Ça se banalise. Je ne partage pas ce pessimisme de certaines autres personnes. J'ai l'impression que cette augmentation des agressions homophobes, c'est un biais qui est lié au fait qu'il y a plus de déclarations. Alors c'est quand même une très mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup d'agressions. Chaque agression, bien sûr, c'est une agression trop, c'est un scandale, c'est une verrue ignoble. Mais s'il y a plus de victimes qui se manifestent, ça veut aussi dire qu'il y a plus de confiance dans la police et dans la justice de ce pays pour considérer que l'homosexuel doit être protégé en tant que citoyen. Et oui, je suis vraiment optimiste.
Face à la recrudescence de ces agressions homophobes, le gouvernement a annoncé à l'automne dernier un plan d'urgence contre l'homophobie. Ce plan prévoit le déploiement dans les commissariats de référents LGBT pour permettre aux victimes de porter plainte plus facilement. Et il prévoit aussi une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires.
Interception.
Nous retrouvons Géraldine Allot et Marcos Darras dans le 19e arrondissement de Paris, lycée professionnel Hector Guimard.
Le magazine de la rédaction.
Comment ça va?
Nous sommes le 28 janvier et ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, va lancer une nouvelle campagne de lutte contre l'homophobie à l'école. La dernière campagne remonte à 2015. Jean-Michel Blanquer s'installe dans le CDI, au milieu des élèves. On lui projette un petit film sur le harcèlement à l'école, réalisé par un ancien élève du lycée.
Je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans. Au début, les gens rigolaient un peu et pour faire bien, je me suis dit qu'il fallait que je rentre dans leur jeu.
Dans 12.
Mais au bout d'un moment, je pensais que ça allait se calmer. Je pensais que tout ça allait s'arrêter.
Va mourir.
C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler.
Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Agissons.
On va écouter les élèves tels qu'ils l'ont vécu, c'est ça? Et je réagirai ensuite.
Bah, il y a un souci qu'on retrouve là pour le coup partout, c'est qu'il y a des insultes homophobes qui sont dans notre vocabulaire presque courant, qu'on va plus assimiler à l'homophobie.
Je m'appelle Peter Tenin, je suis un technicien études et économie.
Vous avez quel âge?
J'ai 18 ans, parce que j'ai redoublé une fois.
Peter, on vous entendait tout à l'heure dire au ministre, PD, c'est une insulte qu'on entend très souvent ici.
Oui, oui, bah tout le temps, parce que c'est un lycée de garçons. Et de garçons pas forcément ouverts d'esprit, on va dire. On est vraiment des garçons, on est là pour être, je sais pas, entre gars, donc c'est compliqué. Il y a toujours des insultes qui circulent tout le temps et gay, enfin PD, c'est vraiment l'insulte la plus fréquente, la plus courante. Pour tout et n'importe quoi, on peut dire ça. C'est l'insulte du siècle, j'ai envie de dire. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est choquant. Ben, je veux dire, on est dans la récré, on entend des insultes sur quelqu'un, on a envie de l'aider, mais après... On sait pas quoi faire en vrai. On sait pas comment réagir parce que tout le monde le dit, c'est devenu normal. On peut pas. Comment dire? On peut pas changer ça. À mon avis, c'est quelque chose qui va rester et qui va rester assez longtemps.
Nous sommes devant l'une des affiches de cette campagne de prévention. C'est écrit ça suffit en grosses lettres. Je m'engage contre les violences homophobes et transphobes. Et il y a un numéro que les élèves peuvent appeler s'ils sont eux-mêmes victimes ou témoins d'agressions homophobes.
C'est très important de lancer une campagne comme celle-ci pour afficher des valeurs qui sont essentielles pour l'école de la République.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
Et ces valeurs, c'est évidemment liberté, égalité, fraternité. Et ces valeurs-là, elles signifient qu'on se respecte les uns les autres, quelles que soient nos différences. Et ça vaut évidemment pour l'homophobie et la transphobie, qui sont des phénomènes que l'on voit dans nos établissements. Je pense que notre société peut générer des phénomènes d'intolérance dans tous les sens et que c'est justement le rôle de l'école que d'être dans un rôle de civilisation, c'est-à-dire un rôle qui nous permet à chacun d'entre nous d'être plus grand que nous-mêmes, de sans arrêt nous élever par l'éducation. Dès qu'on réfléchit un peu à ces sujets, dès qu'on commence à s'éveiller à la connaissance, eh bien forcément on est contre l'homophobie et la transphobie parce que c'est juste stupide d'être homophobe ou transphobe. Donc on voit bien que l'école est dans son rôle complètement. Lorsque, avec son rôle d'instruction, elle a aussi son rôle d'éducation.
Qu'est-ce que tu veux, toi, dégage ?
Pourquoi quoi ?
J'ai ferré ma gueule ? Tu me fais pas peur ? Tu me fais pas peur ? Toi non plus, tu me fais pas peur ? La pédale, elle a pas peur ! Qu'est-ce que vous avez ? Vous dites plus rien ? Je vous choque ? C'est pas comme ça que vous m'appelez ?
Gabrielle Richard, je suis chercheuse associée au laboratoire LIRTES de l'Université Paris-Escréteil et à la chaire de recherche sur l'homophobie de l'Université du Québec à Montréal.
On l'a entendu à l'instant dans ce reportage, Jean-Michel Blanquer vient de lancer une campagne de lutte contre l'homophobie à l'école. Il était temps?
Il était temps, effectivement. Il était temps que l'Éducation nationale prenne action sur des questions pressantes, comme les questions des LGBT-phobies à l'école. Donc oui, cette campagne-là est la bienvenue, mais est-elle suffisante? On peut se poser la question. La campagne n'adresse pas un certain nombre d'angles morts. C'est un peu limité de penser l'expérience scolaire des élèves et des élèves LGBT de surcroît comme étant uniquement des expériences scolaires de violence. Par exemple, est-ce qu'on parle des réalités LGBT, des questions LGBT dans les contenus scolaires? Pratiquement pas. Je sais que la campagne dit autre chose, mais c'est pratiquement pas le cas. Qu'en est-il des interactions entre les élèves et leurs professeurs? On ne parle pas de formation des enseignants, de véritable formation des élèves. Donc ça, c'est des enjeux primordiaux qui sont amplement documentés par les recherches maintenant abondantes qu'on a sur le sujet et qui sont complètement passées sous silence par la nouvelle campagne. Il ne suffit pas, évidemment, de dire « ça suffit, arrêtons les violences » pour que les perceptions viennent à changer. Hein. C'est des perceptions qui sont souvent établies de longue date, depuis l'enfance. Donc, il faut véritablement mettre en place un travail de démystification, de sensibilisation qui ne peut pas passer par autre chose que des actions pérennes, hein, qui s'installent sur le plus long terme, des actions éducatives, véritablement.
Vous pensez que l'homosexualité doit être abordée dans le contenu des programmes?
À mon sens, c'est essentiel. Bon, évidemment, quand on parle d'homosexualité, souvent, ce qui vient en tête, c'est la question de la sexualité. On ne parle pas de parler en classe, et je le précise parce qu'il y a souvent des réticences et des questionnements par rapport à ça. Il ne s'agit pas de parler en classe du fait quelles sont les pratiques sexuelles homosexuelles, pas plus qu'on le fait pour les personnes hétérosexuelles, mais il s'agit bien d'expliquer, par exemple, de quoi on parle quand on parle d'orientation sexuelle? Qu'en est-il de l'identité de genre? Hein? C'est bien beau de parler d'une campagne contre l'homophobie et la transphobie. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la transphobie. Donc, une démystification de base. Et éventuellement, ultimement, ce qui serait plus utile serait d'aller questionner justement les normes qui sont sous-jacentes au milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on prend pour acquis? Qu'est-ce qui relève, selon nous, de la normalité et pourquoi on considère que ça relève de la normalité? Et c'est ces questionnements-là qui seraient, à plus long terme, fructueux pour une véritable lutte contre l'homophobie, contre la transphobie, mais ultimement pour une lutte contre les violences de genre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, finalement.
Pour préparer ce reportage sur la résurgence des actes homophobes, il a été bien plus difficile d'obtenir des témoignages de femmes.
Oui, bonjour, c'est Géraldine. Oui.
En revanche, selon les associations qui les accompagnent, ce sont elles qui majoritairement portent plainte.
Je m'appelle Alexandra, j'ai 46 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 10 ans maintenant et je vis en couple avec une femme depuis plusieurs années maintenant.
En octobre dernier, le soir d'Halloween, vous avez été agressée avec votre compagne. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, on s'était retrouvés, on sortait d'une soirée l'une et l'autre, et puis on s'est retrouvés au croisement d'une rue. Comme on ne s'était pas vu de la journée, on était contente de se retrouver, donc on s'est embrassés pour se dire bonjour. Et puis a surgi de nulle part un homme. Il a tiré violemment les cheveux de ma compagne pour qu'on arrête de s'embrasser. Le temps qu'on comprenne ce qui se passe, il était en train de traverser la rue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai couru après pour lui demander des explications sur ce geste qui était plus que déplacé et déjà relativement violent. Puis là, il s'est retourné et il m'a asséné un énorme coup de poing sur le visage.
Vous avez été blessée?
J'ai été blessée, oui. J'ai eu 4 fractures au visage. Un os enfoncé et puis un nerf lésé dans la bouche qui fait qu'aujourd'hui, 3 mois plus tard, j'ai encore des séquelles dans la bouche.
C'était la première fois que vous vous faisiez agresser?
Non, c'est la deuxième fois. La première fois, c'est quand j'avais une vingtaine d'années. C'était quand je sortais de boîte. Et pareil, on s'embrassait avec mon ami de l'époque. Et là, il y a un groupe de jeunes qui est arrivé, qui eux étaient plutôt dans la discussion et qui étaient à nous dire « Ouais, moi aussi, je veux un bisou et t'es mignonne ». Enfin, je le dis avec des termes plutôt sympathiques. Donc, on leur a expliqué que non, c'est pas comme ça que ça se passait. Et puis, ça s'est un petit peu envenimé. Puis là, il y a un autre type qui est arrivé de nulle part et qui m'a mis un grand coup de boule plein visage. Donc là, j'ai eu le nez cassé.
Vous avez porté plainte. Comment ça s'est passé au commissariat?
Au commissariat, ça s'est très très bien passé. Le policier qui nous a accueillis était très gentil et très bienveillant et très solidaire par rapport à cette agression. Toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient super 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 gentilles et bienveillantes.
Quand nous avons préparé cet entretien par téléphone, vous m'avez dit « je suis une victime qui attire l'empathie parce que je suis très féminine ». Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Alors, je ne vous l'ai pas dit comme ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la haine se cristallise autour du genre. Un garçon, ça doit ressembler à un garçon, et une fille, ça doit ressembler à une fille. C'est vrai que dans notre apparence, mon ami et moi, on va se ranger dans la catégorie des femmes qui sont plutôt féminines versus des camionneuses qui vont être avec le cheveu court, le baggy. Enfin, en fait, c'est assez cristallisé finalement sur des looks, sur des apparences. C'est valable pour les homos, mais je pense que c'est valable finalement pour toutes les franges de la société, quelle qu'elle soit. En fait, on est encore très sur l'habit fait le moine.
Donc finalement, c'est comme si en fait, ok, vous pouvez être lesbienne, mais il faut quand même que vous ressembliez à une fille. C'est un peu ça que la société véhicule encore, selon vous ?
J'ai le sentiment que effectivement, on a le droit d'être différent dès lors que on ressemble à Monsieur et Madame Tout le Monde. On a le droit d'être lesbienne. En tout cas, on est intégré dans une certaine forme de société si on a un enfant, notamment au niveau des parents. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours acceptée telle que j'étais. J'ai déjà eu néanmoins des conversations avec ma maman qui m'exprimait que depuis que j'avais un enfant, c'était plus simple pour elle de parler de moi à ses amis. Elle va parler de ma vie personnelle dans le sens de la structure familiale. C'est un discours que les uns et les autres peuvent entendre.
La conséquence, il faut quand même le dire.
Marion Maréchal, 20 mars 2016.
La conséquence de ces couples de femmes qui ont des enfants à travers la procréation médicalement assistée, c'est que l'enfant n'aura pas de père.
Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes.
Laurent Wauquiez, 18 novembre 2018.
Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme.
Quatrième étage.
France Inter. Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Je suis Daniel Borio, chercheur au CNRS, juriste, donc spécialiste en droit des discriminations et en droit des sexualités.
Est-ce qu'il y a un profil type d'agresseur homophobe ?
Il s'agit d'hommes plutôt que des femmes, d'hommes jeunes, comme s'il y avait une sorte de fragilité dans la masculinité et l'homophobie viendrait en quelque sorte affirmer de manière violente une masculinité douteuse ou qu'elle n'est pas tout à fait encore affirmée. Et dès lors qu'on voit chez l'autre des traits de féminité ou des traits d'homosexualité, se produirait en fait ou déclencherait une sorte d'agression homophobe pour pouvoir rejeter, mettre à distance ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Ça, ce sont les explications plutôt psychologiques.
Vous avez étudié notamment les décisions de justice. Mm-hmm. En général, les agresseurs, comment ils justifient leurs actes ? Est-ce que c'est de l'ignorance ? Est-ce que c'est de l'homosexualité refoulée ? Est-ce que c'est le poids d'une société qui est encore très hétérocentrée, hétéronormée ?
Ils s'expliquent pas souvent l'acte, en fait. Ce qu'on voit, c'est que il y a à la fois une nécessité de pouvoir s'affirmer comme homme, d'affirmer la virilité, et de dire qu'en fait ils l'ont fait en groupe parce que c'était un moyen aussi de montrer aux autres que eux-mêmes ils n'étaient pas ou la personne qui a agressé n'était pas homosexuelle. Et il y a aussi un climat social qui peut déclencher ou favoriser en fait ce type de violence. Je pense qu'il y a une espèce de continuum entre la violence homophobe déclenchée physique, matérielle, et un climat discursif d'arguments qui émergent sur la scène publique, que ce soit au moment du mariage pour tous ou actuellement en ce qui concerne l'élargissement de la PMA pour les couples de lesbiennes ou pour les femmes seules, et un type de discours plus ou moins articulé ou une théorisation en fait de la prééminence de l'hétérosexualité, de la nécessité d'avoir une famille hétérosexuelle, d'un papa, une maman, et le fait que l'homosexualité pourrait apparaître comme un élément qui déstabilise la société et qui pourrait porter atteinte à l'intérêt de l'enfant. Et on a vu beaucoup d'arguments de la part de l'extrême droite, des personnalités comme Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, ou par exemple également de la part de Laurent Wauquiez, de considérer qu'effectivement l'ouverture de la GPA, alors que ce n'est pas du tout question de débattre sur la GPA actuellement, serait considérée comme une forme d'eugénisme qui assimile la France à l'État nazi. Vous voyez, donc tout de suite on arrive à cette espèce de radicalisation du discours. Et cette radicalisation de discours, en fait, est reprise par les réseaux sociaux plus violents. Et ces réseaux sociaux plus violents vont aller jusqu'à l'appel ou l'incitation à la haine vis-à-vis des homosexuels. Et puis, je pense que c'est pas simplement ces discours à la fois des réseaux sociaux ou de la bourgeoisie catholique ou des jeunes de banlieue, mais il y a aussi aujourd'hui, je pense, une violence de la part d'une partie des gilets jaunes. On a vu l'agression du conseiller municipal des Bourg-en-Bresse, Raphaël Duret, et son compagnon par un groupe des Gilets jaunes. On assiste en fait à une espèce d'alliance objective entre la Manif pour tous, Marion Maréchal, le candidat donc LR, Laurent Wauquiez, Xavier François Bellamy, mais aussi des discours qui sont proférés régulièrement par Éric Zemmour ou Patrick Buisson ou Alain Soral ou Ludovine de la Rochère, qui créent un climat de libération de la parole homophobe qui permet par la suite un passage à l'acte. Et ça, c'est très très clair, on le voit dans les dossiers de justice, comment cette espèce d'homophobie présentable socialement va émerger de manière violente sous la forme d'une agression à caractère homophobe dans les domaines de la justice pénale.
Bonjour.
Vous êtes Brahim?
Oui, Brahim Naïd Balk, homosexuel. J'ai 55 ans et je suis aujourd'hui à Issingeau pour faire de la prévention auprès d'un groupe de jeunes.
Donc on est ici devant la mission locale d'Issingeau.
Oui, j'en suis à ma troisième intervention et à chaque fois que je viens, c'est toujours très très riche en fait.
Et Issingeau, c'est la sous-préfecture de Haute-Loire.
De Haute-Loire, oui.
Bonjour, bienvenue à la mission locale d'Issingeau. Donc on vous accueille avec plaisir. Et puis donc les jeunes attendent Brahim pour son intervention, qu'ils attendent avec impatience.
Vous êtes le directeur.
Voilà, Abdelkader Elan, directeur de la mission locale. On peut monter peut-être ? Allez, on y va.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors Brahim va arriver, il va vous parler de son expérience. Il va vous parler de l'homosexualité. Et des difficultés qu'on peut avoir quand on est homosexuel dans notre société aujourd'hui, en 2019, en France. Moi, ce que j'attends de vous aussi, c'est que vous puissiez lui poser des questions. Et puis voilà, si vous avez des interrogations, il n'y a pas de questions taboues. Vous pouvez parler de tout. Brahim répondra à toutes les questions sans se dérober, vous verrez.
Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de m'accueillir dans votre mission locale. Alors, en ce qui me concerne, je suis venu ici. C'est pas la première fois d'ailleurs, pour parler un peu de mon histoire, un peu parler de ma vie. La difficulté d'être homo dans la culture maghrébine, la difficulté d'être homo dans la cité, parce qu'à l'époque je vivais dans une cité à Aulnay-sous-Bois, dans le département du 93, en région parisienne. Et aussi la difficulté d'être homo au travail aussi, et dans la cité en règle générale. Je vais m'asseoir si vous me permettez. Merci. Alors, je voudrais un peu vous expliquer un peu mon parcours et mon histoire.
Pendant une heure et demie, Brahim Naït Balk parle de son adolescence dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, près de Paris. Il raconte tout, les insultes, les viols, le rejet. Il ne cache rien, ses blessures physiques et psychiques, dont il a mis des années à se relever.
C'est fou le temps que j'ai perdu, en fait, parce que j'aurais pu le dire avant que j'étais homo et j'aurais pu finalement avoir une meilleure vie que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant, en fait. C'est ça qui est terrible. Et bon, de mon époque, c'était pas possible, en fait. Mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté.
Moi, je voudrais remercier Brahim, parce que c'est vrai que son discours est fort, hein. Il est violent, il est fort, mais je crois qu'il est nécessaire aussi. Il faut aussi, à un moment donné, c'est pas de la télé, quoi. C'est pas une série qui passe sur Netflix, c'est la réalité. D'abord, je voudrais juste vous poser une question. Qui ça embête de voir deux hommes s'embrasser? Et soyez honnête, hein.
Non.
Toi, ça t'embête?
Ouais, c'est bizarre. Ouais.
C'est bizarre?
Ouais.
Ça te fait quoi, l'homosexualité?
Je sais pas, ça, moi je trouve ça dégueulasse. Après, c'est comme moi je vois les choses.
Non, mais t'as le droit de...
Tu as le droit,
vous avez le droit d'avoir votre, votre vision. Mais pourquoi c'est dégueulasse?
Je sais pas. J'aime pas trop.
Si demain, on peut imaginer... tu avais des camarades homo-gays, quelle serait ta réaction si tu le savais?
J'ai pas de camarades gays.
Comment vous pouvez savoir?
Un jour j'étais à l'hôpital, j'étais avec mon père.
Ouais.
Et j'ai vu deux gays s'embrasser.
Ouais.
Ça me dégoûtait.
Ah, et qu'est-ce qui te dégoûtait? Parce que deux hommes s'embrassent?
Bah.
Mais les gens quand ils s'embrassent, c'est aussi de l'amour.
Je sais pas.
Je peux vous poser une question? Vous me répondez franchement. Hein.
Ouais.
Si demain vous aviez un enfant homosexuel, comment vous réagirez?
Comment?
Tu le tèges.
Tu le tèges, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Je balance.
Vous le balancez?
Ouais, je m'en fous.
Mais il dit ça, mais il a 16 ans.
Tu
en reparleras si t'auras des enfants déjà.
Et les autres, comment vous... Ce serait quoi votre réaction?
On l'accepte.
Je ne sais même pas si la question se pose vraiment, en fait. C'est ton enfant, tu l'aimes, tu l'acceptes.
Oui, moi j'ai fait...
Faut le pousser, enfin, faut l'aider.
Vous, Evan, ce témoignage d'un homosexuel, de ses difficultés à s'assumer et à vivre, vous en avez pensé quoi?
J'ai pensé qu'il a beaucoup de courage, parce que j'ai un ami qui a vécu ça et qui est plus là, justement. Donc franchement, ouais, je trouve qu'il a vraiment du courage et qu'il faut qu'il continue comme ça.
Votre ami, pourquoi il est plus là?
Bah, il s'est suicidé.
Votre ami, il avait quel âge?
21 ans. Et il s'est fait rejeter par toute sa famille et du coup, bah, il n'avait plus personne. Du coup, bah voilà.
Qu'est-ce qui vous vient, l'idée, là?
Bah, que les gens, ils comprennent que c'est pas qu'ils sont différents, c'est chacun vit comme il est et qu'il faut l'accepter, c'est tout.
Et quand vous avez un petit camarade, là, de la mission locale, qui disait tout à l'heure que c'était dégueulasse, l'homosexualité, ça vous évoque quoi?
Bah, c'est bien pour ça que je suis sorti, parce que ça m'a vraiment énervé, et voilà. Je préférais sortir, prendre l'air 5 minutes, parce que... Voilà.
Je suis Abdelkader Elan, directeur de la mission locale. Je suis également le responsable du CORA, du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour le département de la Haute-Loire. Les jeunes sont aussi un peu à l'image parfois des parents. Vous savez, il y a des jeunes qui sont biberonnés à l'homophobie, à l'antisémitisme, au racisme. Hein, et c'est à nous aussi, hein, parce qu'on est aussi des acteurs importants de promotion de la citoyenneté, de promotion des valeurs de la République. Moi, je suis un fervent défenseur des valeurs de la République. Je le dis souvent, je suis un ancien homophobe. Donc il me tient à cœur aujourd'hui, un ancien homophobe, un ancien raciste et un ancien antisémite. Et parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et où c'était, j'ai envie de dire, la norme. Et aujourd'hui, je me sens une responsabilité de faire en sorte que, de donner en tout cas aux jeunes qu'on accompagne des outils, des armes, le moyen en tout cas de résister à ce qui est le plus mauvais dans notre société, à savoir le rejet de l'autre, le rejet de celui qui ne nous ressemble pas.
Ici, on est en milieu rural, on est en Haute-Loire. Il y a de l'homophobie, vous trouvez?
Bien
ici?
Évidemment, bien sûr. Il y a de l'homophobie, alors j'ai envie de dire pas plus ou pas moins qu'ailleurs, mais il y a de l'homophobie, hein. Elle fait partie aussi, intégrante aussi d'une culture qui peut être amenée aussi à exister en milieu rural, dans des terres parfois fermées, où c'est simple, hein. Vous allez à Lyon, vous allez voir des homosexuels. Ici, vous n'allez pas en voir beaucoup. Et souvent, les jeunes me disent, mais on n'a pas l'habitude aussi. C'est-à-dire que quand je leur montre une image de deux hommes qui s'embrassent, j'entends des bas, c'est écœurant, c'est dégoûtant. Vous savez, moi, mon premier combat, c'est l'éducation au regard. Il faut aujourd'hui, ben, à travers ce regard, accepter de voir deux hommes se tenir la main et s'embrasser, ou deux femmes. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir le même regard en France en 2019 que mon père en 1970.
Paris jusqu'ici, juste pour ça?
Ah bah, juste pour vous parler. Bah oui.
Alors...
Tu es surpris?
Ouais, c'est loin.
C'est loin, ouais. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci, c'est gentil.
Brahim, vous venez de passer une heure et demie à parler à des jeunes de 18 à 25 ans. On vous a entendu dialoguer même avec celui qui vous a dit en début de séance « Ah, c'est dégueulasse ». On sentait que vous aviez envie de le convaincre?
Oui, j'avais envie de convaincre ce jeune parce que assez dégueulasse, ça cache plein de choses. D'ailleurs, ce jeune, d'emblée, il avait la capuche sur la tête. C'est une façon de vouloir montrer qu'il voulait se cacher. Ce côté un peu décontracté et un peu on va dire, leader, un peu, vous voyez, avec un ton assez haut dans sa voix. Et je voulais un peu faciliter le dialogue et la discussion avec lui pour le rassurer. Et il a fini petit à petit par un peu s'ouvrir aux autres, si je puis dire. Et,
il est resté jusqu'au bout de l'intervention.
Il est resté effectivement jusqu'au bout de l'intervention. Il a été attentif. Alors dans ces moments-là, je me dis oui, effectivement, c'est vraiment utile ce que je fais. C'est vraiment important, vraiment prendre la peine d'aller parler aux autres, expliquer finalement que l'homosexualité, c'est quelque chose de normal et qu'il faut la vivre normalement. J'aurais aimé avoir quelqu'un à mes côtés quand j'avais leur âge, pour m'expliquer, m'orienter en fait. Ouais, j'aurais aimé. Après tout, j'aurais pu dire les choses sans avoir peur des risques, des représailles ou quoi que ce soit. Et j'ai ce regret-là souvent. Et après, c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper 25 ans, 30 ans de sa vie. On ne peut pas vivre les choses qu'on n'a pas vécues. Et c'est vrai que ça reste toujours une douleur au fond de moi. I want to break free.
Homophobie, la sale parole libérée, c'était un reportage de Géraldine Allot. Arthur Gerbeau et Marcos Darras ont assuré la prise de son. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Mao de Butler. Mixage Jean-Philippe Jeanne. À la semaine prochaine. God.